Voilà.
Oui, oui, oui.
Non, 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 non.
Oui, tu m'as dit, oui, oui, oui.
Comment on va?
Caillou,
non. Non, que tu as dit, non. Ah, oui,
oui.
T'as eu ma guerre des marches, non?
Ah, oui, tu as dit, non. Vous pouvez faire une guerre, non.
C'est une jeune femme qui a été blessée, puis un militaire qui a été blessé également.
Il a été blessé comment?
Mais ça, je ne peux pas vous le dire.
Ils sont évacués sur l'hôpital
civil de Wambo. Oui, c'est ça, oui.
Angola, 11 ans de guerre.
Nous venons en Angola parce que l'Angola a des besoins. Il y a des victimes qu'il faut secourir, donc nous arrivons.
Marco Alter, CICR, Comité international de la Croix-Rouge.
Nous défendons le droit international humanitaire. En Angola, ça a une spécificité, c'est que nous faisons presque uniquement de l'assistance alimentaire, avec quand même un aspect médical. Ceux qui viennent voir ce que nous faisons seront frappés par l'aspect très pratique de ce que nous faisons ici. Nous distribuons de la nourriture, nous distribuons des semences, nous évacuons des blessés. C'est l'intérêt de la victime qui compte. Et je crois que ça, c'est la seule philosophie importante qu'on puisse trouver dans ce travail en Angola. L'intérêt de la victime.
Cette femme a reçu un coup de couteau au cours d'une attaque la nuit dernière.
Depois, o inimigo veio, lhe encontrou na própria lava e lhe deu o faco. Queria lhe matar.
Maison bombardée, grenier pillé, champ miné, personnes déplacées, blessées, ce sont les réalités de la guerre. Une guérilla qui ruine l'économie du pays et disperse les familles. Pour fuir les lieux d'affrontement, les paysans abandonnent leurs terres, se réfugient dans les villes surpeuplées, s'entassent dans ce que l'on appelle les périmètres de sécurité. Là, ils se retrouvent sans ressources, sans travail, car la terre se fait rare.
Vous continuez bien avec un antibiotique, 5 jours. Et depois, vous pouvez acabar, mais est possible que depois, vous allez continuer plus.
Au cœur de l'Angola, une région de haut plateau, le Planalto, des terres où poussent des céréales, des haricots, des patates douces, des fruits. Le Planalto, avant la guerre, c'était le grenier de l'Angola. Aujourd'hui, dans les champs de maïs, armées régulières et troupes de l'UNITA s'affrontent. Le leader de l'UNITA est originaire du Planalto. C'est ici, sur cette terre peuplée d'Ovimundu, à Wambo, un des centres les plus importants de la région, que le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a ancré son action.
On mène une action que j'appellerais globale, en ce sens que à peu près partout dans le monde, nous nous occupons des victimes de conflits armés. Qui dit victime dit évidemment des victimes par armes, mais ça veut également impliquer des victimes des conséquences indirectes de la guerre. Et ici, une grande partie de la population civile souffre de malnutrition à cause notamment de la restriction des surfaces cultivables dues à la guerre, à cause du manque de moyens de communication, à cause de la guerre. Donc l'objectif principal sur le Planalto, sur ce haut plateau très peuplé de l'Angola, c'est de combattre d'abord et de prévenir la malnutrition due aux conséquences du conflit.
Les enfants, ce sont les victimes innocentes de tous les conflits. En Angola, par centaines, ils sautent sur les mines. Ce sont eux aussi les premières victimes de la malnutrition.
Nous nous trouvons à Bailundo, municipio dans le nord de la province de Wambo, à une soixantaine de kilomètres de Wambo. L'activité du CICR à Bailundo, actuellement, un centre de réhabilitation nutritionnelle qui se trouve dans les environs immédiats de l'hôpital. C'est un centre qui est sous responsabilité CICR, environ entre 450 et 500 enfants. Ces enfants viennent des environs, que ce soit des environs immédiats du centre ou les environs plus éloignés. Donc les mères amènent leurs enfants. Et si elles sont à plus de 5 ou 6 kilomètres du centre, ont une possibilité de rester au centre. Toute la nourriture est fournie par le CICR.
Une bouillie de semoule de maïs enrichie. Chaque enfant, muni de son petit bol, reçoit une ration. Christine Folkart, Danielle Savina, infirmière au CICR.
Toute la cuisine est faite à base de bois. Ce sont les employés locaux qui s'occupent du fonctionnement du centre, donc de s'approvisionner en bois, de préparer la nourriture des enfants. La cuisine commence tôt le matin puisque le premier repas est à 6h30, mais il faut chauffer les cuisines bien avant pour faire bouillir l'eau. Il est excessivement important que tous ces enfants mangent à heure fixe parce que 5 repas, donc c'est pas énorme pour des enfants qui ont besoin d'être retapés sur le plan nutritionnel. Et la plupart des enfants ne pouvant pas rester au-delà de 5 heures dans le centre vont avoir leur dernier repas à 4h30, ce qui va leur faire une très très longue nuit jusqu'au lendemain sans aucune nourriture.
Vous venez chaque jour ici ?
Nous venons chaque jour. C'est à mon avis indispensable pour aider le personnel local. Et donc moi je viens contrôler la bonne marche du centre et puis faire également de l'enseignement au personnel local de façon à ce qu'ils puissent prendre la suite, notre suite, le jour où nous ne serons plus là. Parce que c'est le but de toute façon de toute mission.
Estão dentro.
Ah, é? Então vamos lá ao bairro onde eles mudaram agora. Qual é o bairro?
Bairro Miti.
Bairro Miti?
Sim, sim.
Mas aqui já não tem ninguém.
Aqui não tem.
Então pronto, vamos lá ao bairro onde eles estão agora. Isto aqui é uma Elunda, então.
Sim, sim.
Nous avons ici une Elunda. C'est comment ils appellent à des endroits où il y avait des maisons avant. Donc c'est des endroits très fertiles, puisqu'il y avait tous les déchets ménagers. Et ils appellent ça Elunda.
Mais on vient de traverser un petit hameau, un petit village complètement désert, et les cases sont détruites.
Pourquoi les gens abandonnaient l'aldeia, Janel?
Abandonnaient pour cause de la guerre.
Por causa da guerra?
Sim, sim.
Mas houve um ataque nesta aldeia?
As aldeias tinham os ataques, sim.
Aqui nesta aldeia mesmo?
Aqui houve ataque mesmo.
Houve um ataque?
Sim, sim.
Quando?
A partir de 82 até 84.
Tinha havido aqui um ataque?
Sim, sim. Uhum. Foram mais para o centro.
Alors les gens qui étaient dans ce bairro, ils étaient obligés de se déplacer parce qu'il y avait un attaque en 83 ou 84, il était tellement sûr. Et donc, elles se sont dirigées vers le centre de la municipalité. C'est comme ça que les gens font quand il y a des attaques. Ils se dirigent toujours vers le centre, puis ils recommencent tout là, ils reconstruisent une maison.
Oui, il est certain. Donc, il y a une population qu'on appelle les résidentes, et ce sont les gens qui sont ici depuis pas mal de temps. Une population à laquelle s'est ajoutée progressivement les dislocados, qui viennent d'un peu partout, qui sont venus s'adjoindre à la population et qui actuellement vivent ici. S'ils sont ici depuis quelque temps, ils ont eu le temps de se construire une maison. S'ils sont arrivés récemment, en général, ils habitent avec d'autres personnes du village. Donc, ils s'intègrent dans les familles. Et en général, dans un premier temps, ils travaillent pour les autres. C'est-à-dire ce sont des salariés, des journaliers qui travaillent dans les terrains des résidents et qui reçoivent un petit salaire en patates douces ou en maïs s'il y a du maïs. Selon la disponibilité du terrain, ils leur attribuent une petite parcelle de terre qu'ils peuvent cultiver. C'est ce qui fait qu'on assiste à ce phénomène d'appauvrissement du terrain du fait d'une surpopulation par rapport à la superficie géographique. Et il est certain qu'en cette période charnière, à la fin de la mauvaise saison, où les ressources alimentaires sont assez faibles, plus la population d'un village est élevée, par définition, plus les difficultés sont grandes. Où on a une bonne saison qui permet aux gens d'être autonomes sur le plan alimentaire et une mauvaise saison qui pose pas mal de difficultés sur le plan nutritionnel. Et c'est là que nous intervenons. Alors nous sommes à Chipipa, le chef du village, le Seba, qui est l'autorité traditionnelle du village, est en quelque sorte notre interlocuteur. C'est lui qui va guider notre visite. Visiter les maisons, discuter avec les gens, de manière à voir comment ils vivent actuellement, ce qu'ils ont à leur disposition, quelle nourriture ils disposent. Et nous allons passer de maison en maison.
Merci, Christine, déléguée de terrain.
Vous souvenez?
Ocho.
Si?
Ocho.
Obrigado.
Vengo a Gutalam.
A tal, en Mamalanca.
Je vais essayer de déterminer, là, c'est ce qu'ils ont...
Sur le plan alto, dans les provinces de Huambo, Bié, Benguela, la malnutrition est saisonnière. Elle sévit pendant la saison des pluies, d'octobre à mars. De plus, elle accuse les inégalités. Dans un même village, dans un même quartier, alors qu'une famille parvient à satisfaire ses besoins en nourriture, une autre atteint à peine le seuil de la survie. D'où la nécessité pour le CICR d'évaluer au plus juste les ressources des familles. Cette enquête est complétée par la mesure anthropométrique des enfants.
Aujourd'hui, nous allons faire le coaxique de Chipipa périphérie et Chipipa ville.
Il y a à peu près 1800 enfants parce qu'on estime la population de Chipipa et la périphérie à environ 20 000 personnes.
Le coaxique, c'est la mesure de la taille des enfants et de la circonférence de leurs bras. Le rapport entre ces deux mesures, comparé aux normes internationales, permet de déterminer le degré de malnutrition. C, grave. B, médiocre. A, bon état. Pourquoi les enfants? Ce sont eux les premiers touchés par les carences alimentaires. Ce sont eux les révélateurs de la situation nutritionnelle du groupe.
Alors, en fait, c'est la comparaison de ces deux résultats, c'est-à-dire le coaxique plus l'impression générale qu'on va avoir aujourd'hui, qui va nous permettre de voir quelle est la réalité de la situation et qui va nous permettre de prendre une décision. Va-t-on assister ou ne va-t-on pas assister? Y a-t-il un besoin réel ou n'y a-t-il pas de besoin? Et ça, c'est très important, c'est de cerner au plus près les besoins des gens, puisque c'est à eux qu'on s'intéresse en premier. Si nous assistons des gens qui n'en ont pas besoin, nous prenons le risque de faire de cette région une sorte d'assistance chronique qui n'est pas bien pour les gens. Et je crois que les gens le comprennent assez bien. Et dans bien des cas, lorsque la situation va bien, les gens ne nous demandent rien. Donc c'est la preuve que quelque part, eux aussi n'ont pas envie d'être une population d'assistés.
Cette action d'assistance en Angola vise évidemment les victimes de la guerre, ce que nous appelons les bénéficiaires. Et tout le travail d'évaluation donc qualitative et quantitative que nous faisons dans ce pays, que nous faisons seuls, vise à sélectionner ces bénéficiaires, donc à les choisir. C'est nous qui décidons à qui nous distribuons et c'est nous qui décidons quand nous allons distribuer. C'est un gage de neutralité et d'indépendance essentiel.
Primeiro vamos fazer grupos para fazer a chamada e depois vamos fazer bichas com bairros.
Tá bom? Tá bom.
On est à Kaolulu, environ une dizaine de kilomètres au sud de Huambo. On vient d'arriver, il y a pas mal de monde. Donc la première chose à faire, c'est de regrouper les gens par bairro, par village, de façon à ce qu'on puisse faire l'appel, puisqu'on dispose de listes. Donc on va faire un appel nominal qui va nous permettre de distribuer des fiches. Alors, ils vont recevoir un peu de fouba, un peu de feijão, donc ce sont les haricots. La fouba, c'est la semoule de maïs et de l'huile. Le but même de cette distribution, c'est de les aider pour qu'ils puissent arriver dans de bonnes conditions de récolte, de bonnes conditions de santé, aussi de bonnes conditions psychologiques. Parce qu'il est clair que si il y a des problèmes nutritionnels déjà maintenant, ils vont commencer sans doute à essayer de manger leur maïs qui n'est pas mûr. Ce qui, sans aucun doute, est préjudiciable pour la suite.
Alors maintenant, l'appel a commencé, c'est ça?
Alors là, les field officers, donc ce que nous appelons les field officers, ce sont nos travailleurs locaux, sont en train de regrouper les gens par village. Là, ils vont faire les colonnes de façon à ce qu'on puisse faire l'appel.
Bien.
Vitória Giloy.
Vitória Giloy.
Maria do Carmo.
Maria do Carmo.
Mariano Guaia.
Mariano Guaia. Romão Samanjata.
Voilà, les camions Croix-Rouge avancent, la distribution va commencer. Camion blanc frappé de la Croix-Rouge du CICR. Trois camions qui apportent les rations.
Rosalina Ndombe.
On y va. Les gens vont arriver deux par deux, donc deux familles. L'une des familles va recevoir le maïs, la fouba, un sac, ce qui représente 50 kilos, donc 25 kilos par famille pour la demi-ration. Et l'autre famille va recevoir 12 kilos d'haricots et 6 litres d'huile. Alors à la sortie, Arnold va regrouper les gens de façon à vérifier qu'ils sortent bien ensemble. Et puis dehors, ils se partagent les rations entre eux. Si on faisait une distribution personne par personne, famille par famille, on serait obligé d'ouvrir les sacs et puis de distribuer le maïs par mesure de 3 à 4 kilos, ce qui d'une part serait très long et pas très rationnel, d'autant plus que bon, il y aurait pas mal de pertes au niveau des sacs. Malheureusement, ces sacs-là sont en plastique, mais les sacs précédents étaient en tissu et là, ils en font des choses formidables, des habits, ils utilisent le tissu, ils utilisent tout ce qui est utilisable en fait. Donc pour eux, les sacs sont assez précieux.
Olha, Feijão, teu companheiro fuba. Tem que passar um par. Uma ficha. Vai. Tudo bom.
La nourriture vient essentiellement ex-Europe. Donc ils sont mobilisés en Europe essentiellement à travers le marché commun et à acheminer par bateau jusqu'au port de l'Hôpital. Le port de l'Hôpital, c'est le plus grand port commercial dans la région. Et depuis là, on les achemine après par un avion comporteur type Hercules sur Wambo ou sur Quito, qui est une autre base logistique du CICR. À partir de là, pour la périphérie et la ville, c'est transporté par des camions sur les lieux de distribution. Et pour les municipios qui ne sont pas atteignables par la route, on les achemine par des petits avions, avions petits porteurs qui prennent par vol à peu près 1,5 tonnes.
Right, so the first flight in the morning is Wambo, Quito, Quito, Wambo, correct?
Yes, that's right, and you will be waiting in Quito.
Wambo, bureau des opérations aériennes, centre nerveux du dispositif mis en place par le CICR, un dispositif entièrement autonome. Bailundo, Mungo, Lunje, Gove, Chitembo, ce sont des noms de municipios. En mauvaise saison, gros et petits porteurs effectuent plusieurs rotations par jour. Le CICR en Angola, cela représente 8 millions de litres de carburant par an. Arnold Bletter, coordinateur secours, Oscar Schneider, responsable transport.
Tout cela se trouve à Wambo parce que Wambo, c'est le centre de notre action.
Ce qui est intéressant peut-être aussi à relever, que justement Wambo a un aéroport qui permet l'atterrissage d'un Hercules. Parce qu'autrement, le plus logique, évidemment, serait que d'envoyer un Hercules depuis la côte directement dans les villages. Malheureusement, les villages n'ont pas d'aéroport adéquat. Aussi, on pourrait s'imaginer un petit avion qui va directement à la côte. Mais comme on sait, le plus petit qu'un avion est, le plus cher devient la tonne transportée.
C'est évident qu'une telle action exécutée uniquement par avion est extrêmement coûteuse. Mais pour les raisons de sécurité, on est obligé d'emprunter ce chemin.
Apporter une assistance ne suffit pas. Il faut permettre aux populations d'être autosuffisantes. Il faut aider les paysans à cultiver et récolter, les aider à se passer de l'aide. Dès 1985, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a lancé un programme de distribution de semences et de recherche dans le domaine de l'agriculture. C'est Guida, l'agronome locale, la responsable du programme de recherche.
Ici, on cultive traditionnellement le maïs. Normalement, on le fait ensemble avec des haricots. Et le maïs avec l'haricot, c'est la principale base de l'alimentation des populations ici dans cette région. Maintenant, nous sommes dans une situation particulière. Il y a la guerre, il y a manque de transport, ce qui fait que les paysans ne sont pas appuyés en nouvelles semences, en grès. Le maïs étant une culture épuisante, les sols étant déjà pauvres par sa nature ici, c'est normal qu'au bout de 10 ans, sans un apport d'engrais, sans rien du tout, en cultivant toujours les mêmes terrains avec le maïs, parce qu'ils en ont besoin chaque année, les surfaces ne sont pas assez grandes pour qu'ils puissent manger toute l'année, et ils doivent se débrouiller comme ça. C'est pour ça que la Croix-Rouge avait décidé de faire un programme semences, parce qu'il s'agissait d'une situation de guerre, mais où les gens étaient quand même capables de travailler le sol. Et ils ont décidé que, premièrement, c'était moins lourd de transporter des semences que de transporter toute la nourriture. Et deuxièmement, ça ne créait pas tellement une mentalité d'assister chez les gens.
Poor soils, they tend to be very acidic, pH of...
Tony Winch, agronome du CICR.
They have high manganese and aluminium toxicities, and this was the reason behind the ICRC's attempt to introduce the Lucina.
Nous sommes en train d'essayer une arbre légumineuse qui a pour objectif d'améliorer les propriétés du sol. Alors, un système qui est en train de s'étudier beaucoup en Afrique maintenant, c'est la culture en couloir. C'est une façon de faire une espèce de jachère artificielle. Donc, c'est mélanger une arbre légumineuse qui pousse assez rapidement et dont les branches sont très riches en azote. Donc, on coupe les branches de ces arbres tous les 2 mois et c'est ces branches qui vont servir à fertiliser les lignes de maïs.
O milho aqui está fraco, não é?
É.
E na aldeia toda está assim?
Está mesmo assim.
Então, e agora vamos fazer? D'un autre côté, nous essayons aussi de convaincre les gens à recommencer de faire du compost. Avec tous les déchets ménagers, avec, des bananiers, par exemple. Et normalement, ils devraient avoir aussi le fumier. Malheureusement, ici, le fumier devient très rare, justement à cause de la situation de guerre. Une des premières choses que les attaquants cherchent, c'est le bétail, parce qu'ils ont aussi besoin de manger. Nous avons ici le soba du village. C'est le responsable du village. Ici, on appelle « mais velho ». C'est le plus vieux. On lui a déposé confiance et c'est le soba du village. Et nous sommes en train de lui expliquer comment il faut faire pour augmenter les productions de maïs. Nous lui conseillons de faire du compost, mais lui, il n'est pas très convaincu. Il dit que c'est très bien, nos grands-parents, ils faisaient ça, ils se donnaient tout ce boulot, mais ils n'étaient pas tous coincés dans un petit endroit. Ils avaient l'espace, ils avaient le bétail pour aider dans les transports et pour aider avec les fumiers. Maintenant, ils n'ont plus rien. En plus, quand ils travaillent plus, ils savent pas, ils sont pas sûrs de qu'ils vont récolter plus. Mas tem que
arranjar mais coisas.
Não dá para estrumar tudo, porque também as pessoas costumam deixar o milheiro no terreno. E isso é muito mal, porque depois vêm no princípio...
Bom, ici, ce qui est important, c'est que les gens ne restent pas toujours en attente d'une nouvelle distribution de semences. C'est très important parce que les récoltes n'étaient pas mauvaises cette année. Et donc, peut-être, il y aura la possibilité qu'ils gardent une partie de la récolte pour semer encore l'année prochaine.
C'est la deuxième année que nous effectuons une distribution de semences. On avait déjà distribué en 85-86, donc en octobre 85 pour la saison 85-86 et en octobre 86 pour la saison 86-87. Bon, il y a des endroits où nous avons distribué qu'une seule fois parce que nous avons étendu notre rayon d'action. Donc l'apport que nous avons insufflé dans la province de Huambo et dans les provinces voisines est un apport assez considérable. Donc nous pensons que nous tendons actuellement vers l'autosuffisance alimentaire. Ceci dit, il ne faut pas oublier que c'est un pays en guerre et n'importe quoi peut arriver. Alors il suffit d'une attaque, par exemple, sur ce qu'on appelle un municipio, donc sur une localité, que les récoltes, par exemple, soient pillées ou brûlées, ou que les réserves soient volées, et puis tout est à recommencer.
A plantar batata doce.
Ah!
Tem muita rama agora.
É!
Poxa. É daqui do Mongo mesmo?
É.
Eu amo.
Já nasceu quando?
A Mequimbo é do Rago, e a plantar que é amo no limão, não é pando.
Há 6 anos que ela está cá, desde que se deslocou na aldeia.
E qual era a aldeia que estava antes?
O Gutuagalago Palestina.
Fica muito longe daqui?
É.
Não fica longe. Tá. Então e o marido?
Não tem.
Cette femme est angolaise. Elle a 7 enfants. Son mari est mort. Elle a été chassée de son village. C'est une déslocade. Aujourd'hui, dans un nouveau village, elle cultive un bout de terre et élève ses enfants. C'est pour elle, c'est pour toutes les victimes de la guerre que le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, est en Angola.
Há 3 anos. Ele morreu de quê?
Ah, Angola. What and that is? Fogo linga mwe pokwa pana pokwa kwata kwata.
Meu marido morreu na guerra.
Ah, o kakalho mni dali hapa na mepoku linga mwe linga ngoko yopoko kwata
yapa. Angola semé à l'ombre de la guerre. Une coproduction CICR, Comité international de la Croix-Rouge, et Radio France internationale. Reportage Anne Blancard, réalisation Frédéric Leroux, prise de son Francis Parus.
Dentro das aldeias, para puxar lá o povo, para levarem o povo ir nos municípios. E é daí onde o marido se foi batido, morreu pela porrada.
E quando chegou aqui, encontrou o terreno para cultivar?
Eu vou trabalhar.